Chapitre 14. 10 janvier. De ma chambre d'hôtel, la vue est époustouflante. Des montagnes enneigées et un beau ciel bleu pour les encadrer. Il est assez tôt, et les quelques bruits de la rue ne viennent pas troubler la quiétude du moment. Rien à voir avec Paris. Je me surprends à penser que je pourrais aisément vivre dans un endroit comme celui-ci. Il fait beau ce matin, et plutôt doux pour un mois de janvier. Parfait pour se balader. « Tu es sûr que tu ne veux pas venir skier aujourd'hui ?» me demande Sacha tout en engloutissant un petit déjeuner pour quatre. « Certaine. J'en ai eu assez de me concentrer hier, tu vois. Je crois que je vais aller gentiment me promener en ville, sur la terre ferme. Comme tu voudras. On se retrouve vers 14h ? Je voudrais te montrer un endroit qu'avait adoré Marie l'année dernière. C'est un truc de nana, ça va te plaire. Ça s'appelle « Aux délices de Nadège ». Après avoir avalé un croissant supplémentaire, il me colle une bise sur la joue et me laisse. L'esprit dans le vague, je termine mon jus d'orange et grignote une tartine de confiture. Avant de sortir, je remonte dans ma chambre pour enfiler un gros pull et la paire de bottes fourrées que mes parents m'ont offertes à Noël. Le réceptionniste de l'hôtel m'adresse un large sourire lorsque je lui confie mes clés et me souhaite une bonne journée. Dans la rue, les mains bien au chaud dans les poches de mon manteau, je me laisse porter et respire à plein poumon cet air pur et frais. Le centre-ville est plutôt agréable, avec des arbres un peu partout et des petites boutiques qui semblent sympas. Quelques personnes sont attablées aux terrasses de café et un journal à la main. J'entends des rires d'enfants, ils sont quatre à se courir après autour d'une fontaine. Devant moi se trouve un parc que je traverse. Au bout, il y a le fleuve. Et toujours les montagnes qui nous surplombent. Un panneau indiquant le téléphérique Bastille attire mon regard. Ça doit être ces drôles de bulles que j'ai aperçues hier. Je suis les indications et arrive rapidement à la gare de départ du téléphérique. Je vois quatre cabines qui s'élèvent rapidement vers le sommet. J'achète un billet et attends patiemment mon tour. Il y a des couples, des parents avec leurs enfants, une grand-mère avec une petite fille. Je me glisse dans l'habitacle avec ces deux dernières. Les portes se referment et l'ascension commence. Le spectacle est superbe.
« Regarde ma mounette comme on monte haut !»
La petite fille, qui doit avoir 5 ou 6 ans, a le nez collé à la vitre, ne perdant pas une miette du paysage qui se dévoile sous ses yeux. Comme rattrapée par le vide, elle s'éloigne d'un coup pour se rapprocher de sa grand-mère.
« Dis, ma mounette, qu'est-ce qui arriverait si ça se décrochait ?»
Celle-ci la prend dans ses bras et la réconforte d'un bisou. « Les cabines ne peuvent pas se décrocher, Louise chérie. Et tu sais pourquoi ?» Parce que c'est ton grand-père qui a construit ce téléphérique.
« C'est vrai? C'est Papou qui a construit les bulles ?»
demande-t-elle émerveillée. Il n'a pas construit les bulles, mais les câbles qui les portent. Et ce sont les câbles les plus importants. Rassurée, la petite fille s'approche à nouveau des vitres pour observer. La vieille dame m'adresse alors un regard amusé et me sourit. « Vous êtes en vacances ?» me demande-t-elle.
« Je ne suis là que pour le week-end. C'est la première fois que je viens ici. »
« C'est beau, n'est-ce pas ?»«
Ah oui, magnifique, vraiment magnifique. »
Les bulles arrivent à destination. Le voyage n'a duré que quelques minutes. Alors que les portes s'ouvrent pour laisser descendre les passagers, la vieille dame attrape la main de sa petite fille. Juste avant de disparaître de mon champ de vision, elle se retourne vers moi.
« Vous verrez, » me dit-elle, « cette ville a quelque chose de magique. Une fois qu'on lui ouvre son cœur, on ne peut plus en repartir. »
Dans le prolongement de la gare d'arrivée, il y a une terrasse d'observation avec quelques bancs en bois et des jumelles. Je m'approche du bord. La vue sur la ville est à couper le souffle. Les maisons, la verdure et tout autour des sommets enneigés frappés par les rayons du soleil. Mes yeux s'emplissent de larmes. Je suis surprise par l'émotion qui me saisit. De la tristesse, de la joie, de la peur, de l'amour. Sans doute un mélange de tout ça. Les mots de la vieille dame résonnent. Après quelques minutes, je me recule et prends place sur un banc. Machinalement, je tourne la bague autour de mon annulaire. Avec Sacha, nous nous sommes bien gardés de parler de Germain et du mariage. Hier soir, nous avons surtout échangé des souvenirs de notre enfance. Nous avons beaucoup ri et ça nous a réconfortés de voir que l'on pouvait aussi penser à tout ça sans pleurer. Comme pour me ramener à la réalité, un bip annonce l'arrivée d'un message sur mon téléphone. « Je suis rentrée tard hier, mon poussin. Je n'ai pas pu t'appeler. J'espère que tu vas bien et que tu t'éclates sur tes skis. Tu me manques, j'ai hâte que tu rentres. » Germain.
Je réalise qu'avant cet instant, seul sur ce banc, je n'ai pas pensé une seconde à lui. Je lui manque. Lui ne me manque pas. Ce constat me serre le cœur. Comment vais-je me sortir de tout ça? Les larmes de tout à l'heure se mettent à couler. Et là, à plusieurs centaines de mètres au-dessus d'une ville inconnue, devant le paysage le plus beau qu'il m'ait été donné de voir, je pleure en silence. À 13h50, j'attends Sacha au début d'une rue piétonne. J'ai pris le temps de sécher mes larmes. Je me sens plus légère. Ce temps passé seul a été bénéfique. Il était nécessaire pour que je comprenne. J'aperçois Sacha au loin et je souris en pensant que Marie a bien fait de nous envoyer tous les deux ici. Alors qu'il s'approche, je me souviens de ce qu'il m'a dit hier soir, que petit, il nous détestait parce qu'on s'amusait à faire la course avec lui et qu'on gagnait tout le temps. Il n'était pas le jeune homme athlétique d'aujourd'hui. « On fait la course ?» je lui crie avec espièglerie. Je me tourne vers la rue piétonne et me mets en position de départ. « 1, 2, 3, partez !» Je commence à courir en espérant que Sacha me suive dans ce petit jeu. Je ne tarde pas à découvrir que c'est le cas en l'entendant approcher dans mon dos. Ce n'est plus le petit garçon d'autrefois, c'est une certitude. En quelques foulées, il me dépasse et s'offre le luxe de se retourner vers moi. « Le salon de thé est au bout de la rue !»« Le dernier arrivé invite l'autre !» Reprenant la course, il accélère le rythme. En l'espace de quelques secondes, il m'a largement distancé. Mais comment est-il possible de courir aussi vite ? Hors d'haleine, je finis par m'arrêter à quelques pas de lui. Penchée en avant, les mains sur les cuisses, je tente de reprendre mon souffle et regarde Sacha faire des allers-retours en petite foulée devant le salon de thé dont j'aperçois l'enseigne, aux délices de Nadège. « Vengeance ! J'ai gagné ! J'espère que tu as pris suffisamment d'argent parce que j'ai une faim de loup !» Je me redresse pour le rejoindre. Une grande affiche blanche sur la devanture qui précède le salon de thé accroche mon regard. Il y est écrit « Recherche professeur de danse ». Si vous aimez les enfants, elles aussi vous aimeront. Expérience souhaitée. 06 75 46 83 72. Demandez Monsieur Louvier. En fin de journée, Sacha ayant prévu de retrouver des copains dans une autre station, je l'accompagne à la gare. Il paraît moins préoccupé et je suis heureuse que Marie ait organisé tout ça. De retour à l'hôtel, je sens la fatigue s'emparer de moi. Je m'allonge sur le lit et ferme les yeux pour essayer de dormir un peu. Quand il devient évident que cela ne marchera pas, je me résous à faire ce que j'ai à l'esprit depuis un bon moment déjà. Je prends mon téléphone et compose le numéro. Une sonnerie, puis deux, et...